Écho d'ici, écho d'ailleurs. Dominique Maillard, Guillaume Munier.
Bienvenue dans Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui décrypte les rouages de l'économie mondiale. Le dernier numéro de la saison a un parfum de vacances. On vous emmène en voyage à travers le continent africain. Le tourisme en Afrique rime souvent avec exotisme pour les voyageurs occidentaux. Au recto de cette carte postale un brin désuète, il y a des hommes, des femmes qui vivent de mieux en mieux de cette industrie. Il y a aussi de nouveaux clients, tous des ressortissants du continent. Mais le Covid est en train de mettre à rude épreuve une activité devenue vitale pour la croissance africaine. L'Afrique va-t-elle s'en remettre? Comment concilier la santé et les intérêts de l'économie? En quoi la pandémie peut-elle bouleverser cette industrie? Pour en discuter, nous avons réuni dans ce studio trois personnalités très engagées, concernées par le sujet. Et puis, parce que les femmes sont majoritaires dans ce secteur, souvent à des postes d'exécutantes, eh bien, nous avons choisi de privilégier des invités au féminin. Mais contrairement à la majorité des employés du tourisme, nos invités sont des femmes puissantes. Isabelle Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale par intérim de la CNUSED, l'agence des Nations Unies chargée d'intégrer les pays en développement à l'économie mondiale. Agence qui a publié il y a quelques semaines un rapport sur le tourisme à l'épreuve du Covid, bien sûr avec un chapitre spécifique sur l'Afrique. Vous êtes avec nous depuis Genève. Avec nous depuis Agadir au Maroc, la ministre du tourisme Nadia Feta, bonjour.
Bonjour.
Alors après une première carrière dans la finance, vous avez commencé une nouvelle vie en entrant au gouvernement en 2019. On vous confie le portefeuille du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale. Vous êtes donc en première ligne pour gérer les conséquences du Covid dans un secteur clé pour l'économie de votre pays. Et enfin, dans ce studio de RFI, j'accueille une femme au parcours digne d'un roman, la femme de chambre devenue PDG, Swadou Niang. Bonjour.
Bonjour, Dominique.
Vous dirigez le Palms Luxury Hotel Boutique à Dakar, un établissement que vous avez ouvert en 2017. Vous nous raconterez tout ça et bien sûr, vous nous donnerez aussi le point de vue d'un opérateur privé sur la situation actuelle. Pour commencer, quelques données sur l'apport du tourisme dans l'économie africaine avant l'émergence du coronavirus. Cette industrie pèse 8,5% du produit intérieur brut du continent. L'Afrique est la deuxième région touristique la plus dynamique du monde, après l'Asie-Pacifique. Cette activité qui progressait très très vite est une source majeure d'emploi, 24 millions de salariés déclarés. Et bien sûr, c'est une source conséquente de devises grâce à l'afflux des visiteurs étrangers. Mais le coronavirus est en train de mettre à terre cette industrie prometteuse. Les recettes liées aux touristes internationaux devrait être amputé de 2/3 pour la saison actuelle. Isabelle Durand, c'est à vous l'honneur. La CNUSED a publié donc récemment son rapport sur le tourisme mondial. Quel est votre diagnostic, vos prévisions pour le continent africain?
Alors, notre rapport, en effet, s'est penché sur la question du tourisme en période de Covid. Et je dis bien en période de Covid parce qu'on n'en est évidemment pas sorti. Alors, il n'a pas nécessairement fait le focus sur l'Afrique. Il a regardé le tourisme de manière générale et il a fait des différenciations selon qu'on est dans un pays développé, entre guillemets, ou catégorisé comme tel. Je ne sais pas, on peut prendre l'Italie, l'Espagne et même la France, qui sont des pays à très grand investissement en matière de tourisme. Et puis, en effet, des pays en développement qui, eux, souffrent d'autant plus que, puisque globalement, en 2020, l'arrivée des touristes a diminué de 74%, je parle bien globalement pour le monde, avec donc des effets directs, mais aussi des effets indirects, parce que quand les touristes ne viennent plus, évidemment qu'il y a une série d'activités, l'alimentation, la production de services, tout ce qui contribue au tourisme, qui sont des secteurs indirects, des gens qui dans la chaîne du tourisme interviennent, la perte totale est encore 2,5 fois plus élevée que la perte du nombre de touristes. Et donc, on est dans des chiffres phénoménaux. Et la grande différence, si je peux dire, entre les pays développés, j'ai cité l'Espagne, l'Italie ou d'autres, et des pays en développement, c'est que d'un côté, il y a eu plus ou moins des soutiens pour le personnel, pour l'activité, et puis il y a eu aussi le tourisme domestique qui a un petit peu compensé l'absence de tourisme international. Mais pour l'Afrique et les pays en développement, c'est évidemment pas le cas. Très peu ou quasi rien en termes de soutien et pas de tourisme domestique pour compenser quelque peu l'absence des tourismes internationaux. Donc les perspectives sont, évidemment les chiffres de 2021 sont mauvais et les perspectives à venir vont évidemment dépendre du taux de vaccination, vont dépendre de la manière dont on pourra avoir une certaine transparence et une meilleure reconnaissance des vaccins des uns et des autres. On est loin du compte quand on regarde le taux de vaccination en Afrique en particulier. Et donc, les perspectives pour l'année prochaine ne sont pas tellement meilleures que celles de cette année. Et on ne s'attend pas à un vrai mieux avant 2023. Globalement, ce sont bien sûr les chiffres consolidés.
D'accord, très bien. Bon, en attendant, il faudra quand même continuer à vivre hein, pour tous ceux qui dépendent fortement de cette activité. Swadou Niang, notre témoin dans ce studio, votre hôtel a ouvert 2 ans avant l'apparition du Covid, en 2017. Alors, en quoi votre activité est-elle affectée par le coronavirus? Mais d'abord, j'aimerais pour que nos auditeurs apprennent à vous connaître et puis parce que je sais que votre histoire pourrait les inspirer, j'aimerais que vous nous racontiez rapidement votre cheminement de la femme de chambre à la patronne de grand hôtel.
Bonjour, merci de nous avoir invité aujourd'hui, Dominique. Oui, effectivement, le Covid est arrivé chez nous à Dakar le 10 mars 2020, c'est là où j'avais eu à fermer l'hôtel complètement. Mais avant ça, on venait de démarrer, tout roulait très bien. Mon parcours, je suis née, j'ai grandi à Dakar. Après, je suis allée aux États-Unis pour les études. En même temps, j'ai travaillé à l'hôtel Ritz de Washington. Et c'est là-bas où j'ai commencé comme étudiante un part-time travail pour housekeeping, qui est le département de nettoyage de chambres. Et de là, j'ai avait des échelles en ayant l'ambition d'être dans le management parce que j'ai vu que les gens qui nous dirigeaient venaient de tous les continents et beaucoup d'Africains et de Mexicains. Donc, je me suis dit, en tant que Sénégalaise, j'ai ma place dans le management. Et c'est comme ça, quand j'ai terminé mes études, que je suis revenue dans le management. J'ai dirigé un hôtel qui faisait plus de 300 personnes et j'ai eu l'ambition de revenir au pays et de créer ça. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec mon hôtel boutique qui est le Palms, qui est à Dakar. Oui, nous sommes une famille là-bas. Nous sommes 60 employés, dont 80% de femmes, vraiment. Et j'avais prôné d'embaucher des femmes parce qu'elles avaient cette place dans ce métier. Et quand je suis retournée au pays après 20 ans d'absence, j'ai vu que beaucoup de femmes venaient juste de commencer à avoir de la confiance en soi, mais n'étaient pas trop boostées. Et il fallait peut-être des diplômes pour même oser aller chercher du travail. Et je leur ai fait comprendre que dans le métier du service, s'il y a une formation, t'as pas vraiment besoin de diplôme. Il faut d'abord la motivation et la passion et un boost. Et ce boost, ça vient de la formation. C'était un pari que j'ai défié et qu'aujourd'hui j'ai réussi parce que je te dis, personne n'a un diplôme dans cet établissement et pourtant on est en train de faire du beau travail.
Voilà, ouais. Et un établissement qui, comme tous les autres bien sûr, est confronté à cette calamité du coronavirus. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je tenais un peu à ce que vous nous racontiez ce parcours parce que je pense qu'il peut être assez inspirant. Mm-hmm. Nadia Feta, votre pays est le premier pays africain en termes de visiteurs étrangers avec 13 millions de tours touristes en 2019, dites-moi si je donne bien le bon chiffre. Quelles sont vos prévisions pour cette saison? Comment est-ce que vous appréhendez l'été 2021?
Bien, comme vous le disiez, toutes les dynamiques de relance successives ont été contrariées par cette crise avec laquelle on est obligé de vivre. Maintenant, sur les perspectives, donc on va dire que l'été est relativement préservé parce qu'on a un tourisme interne qui est relativement important. En 2019, il représentait 34% des nuitées dans les établissements classés. Et pour les stations balnéaires au Maroc, on peut dire que c'est complet en fait pour les mois de juillet et août. grâce au tourisme interne, que ce soit les Marocains résidant au Maroc, mais également les Marocains du monde, pour lesquels nous avons organisé, sous les orientations de Sa Majesté, une opération, on va dire, d'envergure pour qu'ils puissent revenir au pays quasiment 2 mois après. Donc, juillet, août, septembre, on va dire, l'horizon est à peu près clair pour les stations balnéaires. Quelques villes touristiques, en revanche, qui sont à l'intérieur des terres et qui souffrent de grandes chaleurs, sont toujours en difficulté. Le challenge sera bien entendu la saison automne-hiver, où c'est un peu plus compliqué compte tenu du manque de visibilité et des problématiques toujours présentes de la crise. Voilà.
Alors, je vous propose maintenant de faire une première escale au Kenya, où le tourisme pèse 10% du PIB. Il emploie 2 millions de personnes. Les mois de juillet et d'août marquent traditionnellement la haute saison touristique. Les étrangers affluent de partout dans le monde à ce moment de l'année pour observer la migration des animaux de la Tanzanie vers le Maasai Mara. Eh bien, cet été, ils se font rares, trop rares pour les acteurs du secteur. Reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir.
Les vendeurs s'affairent autour de leur stand au marché Maasai du centre de Nairobi. Paniers traditionnels, couvertures colorées et souvenirs en tout genre s'accumulent. Mais dans les allées, les touristes se font rares. Vincent Magagna tient un stand depuis 18 ans. Il déplore une année difficile.
À cause de la pandémie l'année dernière, on n'a pas eu de clients. J'ai tellement perdu d'argent, je ne sais pas quand je vais m'en remettre. Aujourd'hui, on voit petit à petit les touristes qui reviennent. C'est mieux qu'en 2020, mais j'espère qu'en août, on verra encore plus de touristes parce que maintenant, les gens commencent à être de plus en plus vaccinés.
Dans les rues de Nairobi, quelques Land Cruiser chargés d'emmener les touristes en safari ont justement commencé à réapparaître. Mais les quelques étrangers qui arrivent ne suffisent pas à donner de l'espoir pour la saison 2021. Richard Kinoa est président de l'Association des professionnels de l'hôtellerie et directeur de l'hôtel Clarion à Nairobi. Il s'inquiète d'une reprise de l'activité qui tarde.
L'industrie se remet petit à petit, mais très lentement. On a regagné environ 10% d'activité depuis avril-mai et on s'attend à avoir plus de monde pour la migration dans le Maasai Mara. Mais à l'échelle du pays, le business n'a pas redémarré. À Nairobi, les hôtels sont à 30% d'activité. Sur la côte, certains établissements n'ont pas rouvert et ceux qui sont ouverts sont à 20% seulement. La pandémie est toujours très présente dans beaucoup de pays. Il y a toujours des restrictions, alors les gens sont prudents. On a très peu de réservations.
De plus, la présence du variant Delta au Kenya inquiète. Alors, pour compenser l'incertitude du tourisme international, l'industrie mise sur les locaux. Georges Mumba tient une agence de voyage. Après avoir dû se séparer de la moitié de son équipe l'année dernière, il a revu sa stratégie commerciale.
Les touristes locaux ne voyageaient pas vraiment avant la pandémie. Mais ils s'y sont vraiment mis en 2020. L'été dernier, pendant la grande migration, il y avait 40, 50 voitures à une entrée du Maasai Mara. Et c'était tous des Kenyans. En tant qu'acteur du tourisme, ça a changé notre vision. On se concentrait seulement sur le tourisme international et on a dû réfléchir à comment attirer les locaux. Les hôtels ont baissé leur prix de façon drastique. Un forfait qui coûtait 200 euros auparavant est passé à 115 euros en ce moment.
Pour autant, le tourisme local n'est vu que comme une solution temporaire, permettant de payer les factures, mais loin de générer autant de profits que le tourisme étranger.
On ne peut pas comparer les Kenyans avec les touristes internationaux qui payent en dollars. Et surtout, les locaux payent moins bien. Par exemple, moi en tant que guide, je suis habitué à recevoir des pourboires. Or, les Kenyans ont tendance à me dire « Oh Georges, t'es un super guide. Merci de nous avoir montré le lion. Au revoir. » Mais pas de pourboire. Le tourisme local, c'est juste un pansement pour payer les factures. Ce n'est pas une solution permanente.
Les touristes locaux, un pansement, mais pas une solution, nous disent témoins. Et ça nous fait rire dans ce studio, Swadou Niang. C'est aussi votre avis?
Oui, c'est mon avis, parce qu'on l'a vécu aussi à Dakar. Quand il y a eu la pandémie, beaucoup de locaux avaient commencé à découvrir l'intérieur du Sénégal. Et moi-même, d'ailleurs, je n'ai jamais fait l'intérieur du Sénégal et c'était une belle surprise parce que je me suis rendu compte que nous avions des écologes, nous avions beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur du pays. Donc oui, c'était très bien, mais comme ils disent prévisément, que les touristes locaux, c'est juste temporaire. Et on est parti pour jusqu'à 2023. Qu'est-ce qu'il y a à faire, vraiment?
Et est-ce qu'ils ont le même pouvoir d'achat?
Ils n'ont pas le même pouvoir d'achat. C'est exactement ça le problème.
Alors, à titre indicatif, le tourisme local dans le monde, c'est 73% des dépenses. En Europe, c'est 63%, 83% en Amérique du Nord, en Afrique en 2019. Eh bien, c'était seulement 55%. Nadia Feta, vous avez immédiatement abordé l'apport de ce tourisme local, celui aussi de la diaspora. Et c'est pour vous quelque chose qui peut tout à fait remplacer les touristes étrangers qui sont la clientèle traditionnelle du Maroc?
Remplacer, non, mais je pense que c'est le tourisme interne est d'abord un souhait des citoyens. Je vous ai dit qu'il représentait déjà 34%, donc c'est une bonne base de travail qui a permis à quelques villes touristiques d'être vraiment résilientes. Les Marocains, comme j'ai entendu de votre invité du Sénégal, ont découvert ou redécouvert certains endroits du pays. Et cette saison estivale sera sauvée par le tourisme interne. Maintenant, c'est quand même un moment où on se repose la question de façon structurelle, parce que les demandes sont différentes. Vous l'avez évoqué, vous avez évoqué le sujet des moyens, mais c'est également la façon de consommer le tourisme, peut-être des habitations un petit peu différentes, des modes de restauration différentes. Donc on continue à compter sur ce tourisme interne pour passer cette période difficile, mais on se pose dès aujourd'hui les questions pour retransformer le secteur, pour en faire une base beaucoup plus importante. Vous avez évoqué 70% sur l'échelle, on va dire, à l'échelle du monde. Je pense que nous aussi, on a un effort à faire pour passer de 30% à au moins la moitié de notre tourisme.
Alors, au Maroc, on réfléchit déjà à la façon de modifier l'offre pour mieux répondre aux attentes de cette clientèle locale. Isabelle Durand, on a vu avec le Covid que les gouvernements africains ont fait du développement du local une priorité. Ils veulent, dit-on, remettre les Africains au centre de leur économie. Alors, est-ce que le pouvoir d'achat, j'ai posé la question à Swadou Niang, est assez élevé aujourd'hui en Afrique pour permettre un véritable essor du tourisme national? Et quels sont les autres ingrédients nécessaires pour développer cette clientèle?
Mais je trouve que les exemples qui viennent d'être donnés par la ministre marocaine, mais aussi pour le Sénégal, montrent qu'il y a, malgré tout, malgré un pouvoir d'achat plus faible, un tourisme domestique qui interroge un peu le mode de tourisme. Parce que avant le Covid, c'est à cause d'une expansion massive du tourisme de masse ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années qu'on a, je dirais, pensé tout le secteur du tourisme sur le tourisme international, en particulier en Afrique. Et je pense que ce que Madame la Ministre vient de dire, à savoir la manière dès maintenant de ne pas seulement considérer que le tourisme local ou domestique n'est que juste la transition en attendant le retour des touristes étrangers, mais peut-être d'essayer de combiner les deux, d'autant plus que il y a une année entière à couvrir et que les pays africains peuvent se permettre de couvrir l'année entière parce qu'ils ont évidemment des conditions climatiques qui sont généralement plus favorables. Et donc je pense que partout, dans chaque pays africain, dans des proportions évidemment différentes, la question du développement, du changement de paradigme dans le tourisme doit se poser. Alors c'est évidemment une question de pouvoir d'achat des consommateurs, mais aussi dans la proximité, peut-être un tourisme domestique plus nombreux en quantité, mais peut-être dépensant un peu moins, peut remplacer ou compenser ou apporter un autre pied, si je peux dire, au tourisme international. Et ça, c'est une vraie question. Et j'ajoute à ça que la question du changement climatique, qui est aussi une question qui nous concerne tous, qui touche d'ailleurs de plein fouet dans ses effets, non seulement ceux qui ont été récemment inondés dans le Nord, mais ces changements climatiques se manifestent particulièrement dans les régions subtropicales. Je pense que peut-être que les changements des consommateurs ou des touristes dans l'avenir pourraient aussi un peu se modifier et que peut-être qu'on sera moins enclin à prendre l'avion pour aller très loin, pour pas très longtemps, et que donc on doit pouvoir offrir un tourisme qui marche sur plusieurs pieds et pas seulement qui compte uniquement sur les touristes internationaux. Je trouve que la question que se pose la ministre marocaine est absolument centrale et elle doit interroger tous les acteurs de la chaîne du tourisme, y compris dans l'infrastructure, le type d'offres, les goûts, les attentes d'un tourisme local ou domestique ne sont pas les mêmes que ceux des touristes internationaux. Et je pense que pouvoir répondre aux deux, soigner les aspects culturels des sous-régions d'un même pays pour pouvoir faire découvrir sa région. Vous savez, même en Europe, beaucoup de gens ont redécouvert leur propre pays, ce qu'ils ne faisaient plus. Ils préféraient aller prendre un avion pour aller très loin plutôt que voyager dans leur propre pays. Donc je crois qu'on doit faire les deux.
Vous êtes toujours sur RFI, à l'écoute de Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Et eh bien, cette semaine, on est en voyage sur le continent africain pour évoquer le tourisme à l'épreuve du Covid avec trois invités. La ministre marocaine du tourisme, Nadia Feta, en ligne avec nous depuis Agadir. Isabelle Durand, secrétaire générale de la CNUSED, qui est en ligne avec nous depuis Genève. Et dans ce studio parisien, Swadou Niang, femme d'affaires sénégalaise, directrice de l'hôtel du Palms. Le tourisme africain peut aussi bénéficier de la dynamique interne au continent. Bien sûr, pour le moment, les précautions sanitaires, la fermeture des frontières limitent ces échanges. On va faire le point sur la circulation dans la région avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Alors, dites-nous, où en est-on concernant les frontières au Sénégal en particulier et globalement sur le continent? Peut-on voyager librement?
Pour le cas du Sénégal, tout dépend de votre situation. Les frontières aériennes sont ouvertes, sauf pour les ressortissants de l'Union européenne. En fait, puisque Dakar applique le principe de réciprocité aux États qui interdisent l'entrée de ses ressortissants sur leur territoire. Alors, ça ne concerne pas les résidents, ni ceux qui présentent une autorisation spéciale d'embarquer pour une mission de travail, par exemple. Mais le tourisme n'est pas un motif valable pour obtenir ce laissez-passer. Et forcément, eh bien, cette mesure pèse lourd sur le secteur au Sénégal. Les Européens représentent habituellement une part très importante des visiteurs, notamment pendant la haute saison, donc en hiver, en Europe. Sur le continent, certaines frontières aériennes restent fermées aux touristes étrangers. C'est le cas de Madagascar. Sinon, dans la quasi-totalité des pays, un test PCR négatif est exigé à l'arrivée. Alors, on peut citer entre autres l'Égypte, pour qui le tourisme est la deuxième ressource économique. Exemple aussi de la Mauritanie, du Ghana où un second test rapide est effectué à l'aéroport et c'est $150 au passage pour les étrangers. Dans certains États, les non-nationaux doivent aussi présenter un certificat d'hébergement. C'est le cas par exemple au Congo-Brazzaville et de son côté le Maroc, mais la ministre pourra sans doute beaucoup mieux parler des conditions. Le Maroc peut demander selon le pays de provenance un certificat de vaccination avec un certain nombre de vaccins reconnus.
Bon, si on a bien compris, c'est assez compliqué de voyager pour faire du tourisme aujourd'hui en Afrique. Face à cela, certains pays, Charlotte, misent sur le tourisme local. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Tourisme local ou sous-régional, c'est l'ambition par exemple du Sénégal.
Oui, vous le disiez depuis le début de cette émission, le Sénégal donc tente de faire découvrir ou redécouvrir, soit Denis on le disait, les sites touristiques aux nationaux et tente aussi d'attirer des vacanciers de la région qui peuvent venir plus facilement, du Maroc par exemple, de la Côte d'Ivoire. J'ai rencontré là récemment sur l'île de Gorée des touristes venus du Burundi. Le Sénégal qui mise aussi sur le tourisme religieux, c'est un des volets, ou encore sur le tourisme d'affaires. Parmi les pays en tête pour ce type de tourisme, on trouve l'Afrique du Sud, donc en tête, le Maroc ou encore le Rwanda. C'est évidemment un enjeu très important, vous en parlez. De nombreuses structures ont déjà fermé, du personnel licencié. La Tunisie, par exemple, a connu en ce mois de juillet une flambée des cas. La Tunisie, où le tourisme représente 14% du PIB, est donc difficile pour l'heure pour ces professionnels du continent, comme d'ailleurs de voir le bout du tunnel.
Merci Charlotte Idrac qui était avec nous depuis Dakar. Alors, Nadia Feta, Madame la Ministre, Charlotte Idrac faisait allusion à la situation préoccupante de la Tunisie avec cette nouvelle vague de Covid qui endeuille le pays. Le Maroc était l'un des pays africains pionniers en matière de vaccination pour protéger la population, rassurer les visiteurs. Est-ce que votre ministère a été associé à cet effort ?
Absolument, comme vous le disiez, l'effort a été mis sur la gestion de la crise sanitaire elle-même. Donc aujourd'hui, on a à peu près 10 000, un peu plus de presque 11 millions de personnes qui sont vaccinées et dont presque, enfin un peu plus et un peu moins qui ont déjà la deuxième dose. Nous avons également des tests massifs en fait, notamment pour les frontliners. Aujourd'hui, nous faisons ça par âge en fait les vaccins et nous vaccinons les personnes entre les 35 et 39 ans. Au-delà en fait du sujet des tests et de la vaccination, le Maroc courant juillet a également annoncé la construction d'une usine pour fabrication des vaccins. Parce qu'hélas, les experts nous font un petit peu peur en disant peut-être qu'on va venir à bout de cette Covid, mais qu'il faut se préparer à d'autres épidémies dans le futur. Donc pareil, donc des décisions stratégiques et structurelles, en espérant qu'on pourra également faire bénéficier de cette future production des pays africains qui malheureusement n'ont pas eu les doses qu'il fallait. Et vous avez cité l'exemple de la Tunisie avec lesquelles nous sommes totalement solidaires. Au-delà de ça, donc au-delà de la vaccination, donc le secteur du tourisme s'est également mobilisé pour que tous les aéroports soient en, on va dire, en état de recevoir des clients. Donc on a 15 aéroports qui sont certifiés Airport Health Accreditation, et nous avons avec le bureau Veritas monté un label spécifique aux établissements touristiques qui s'appelle Welcome Safely, qui garantit, on va dire, un process sécurisé. Je voudrais juste finir pour ne pas être long. Nous avons bien entendu un passeport vaccinal dont l'objectif est évidemment de pouvoir avoir une mobilité la plus aisée possible à l'intérieur du pays. Donc soit vous êtes doublement vacciné ou testé négatif, et des discussions sont en cours en bilatéral ou avec l'Union européenne pour pouvoir, on va dire, reconnaître mutuellement ces passeports vaccinaux. Voilà, rapidement.
Oui, donc on voit qu'il y a eu un gros effort logistique qui a été entrepris par votre pays, qui a d'ailleurs suscité l'admiration, y compris des Européens, qui étaient parfois bien moins organisés que ne l'était le Maroc. Swadou Niang, j'ai envie de vous demander une réaction. Charlotte Hydrac nous disait à l'instant que le Sénégal faisait partie des pays qui essaient de développer le tourisme d'affaires. Je suppose que c'est un peu votre créneau. Alors, est-ce que vous avez, vous, une clientèle de touristes ou de visiteurs, de clients régionales, internationales? Quel est le profil de vos clients?
Exactement. Mon hôtel est totalement touriste d'affaires. On n'accueille que des séminaristes et vraiment, je vous dis, je n'ai jamais eu de famille ni de couple qui viennent, très rarement, vraiment, je dirais 1%. Donc, j'ai été très affectée. C'est pour cela que quand on parle du touriste domestique, ça ne me concerne vraiment pas parce que je n'en reçois pas chez moi, parce que je suis à Dakar. Les Dakarois veulent aller vers la station balnéaire et à l'intérieur du pays et la petite côte. Donc, nous, les hôteliers qui sont à Dakar même, nous sommes très, très, très affectés depuis le 10 mars 2020 parce qu'il n'y a plus de séminaires, c'est le télétravail. Donc, j'étais quasiment fermée depuis 8 mois. Je viens d'ouvrir il y a 2 mois et les touristes domestiques commençaient à venir. Et malheureusement, maintenant, on parle de 3e vague. Les annulations ont commencé cette semaine encore.
Alors, vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Je pense que vous avez déjà déclaré que vous vouliez ouvrir d'autres hôtels. Ces projets tiennent toujours malgré cette situation critique?
Oui, elles tiennent toujours. Pourquoi? Parce que dans ce monde d'affaires et de tourisme, on a vécu ça avec, je crois que c'était dans les années 80, où le tourisme était totalement sinistré et a repris. On s'est adapté, on s'est relevé, et dernièrement, avec les problèmes de terrorisme, l'Afrique a subi aussi ce problème dans le domaine du tourisme. On s'est relevé. Bon, j'ai la foi en Dieu. Je me dis que je me donne jusqu'à partir de 2023 pour espérer que le monde sera vacciné et que nous aurons des réseaux meilleurs.
Et dites-moi, l'industrie hôtelière en Afrique, elle est encore dominée par les Occidentaux? Les premiers groupes, c'est Accor, Marriott. Est-ce que, du moins en nombre de chambres, en nombre de nuitées, vous avez envie de bousculer cet ordre des choses?
Exactement, parce que en fait, ce que j'ai vu qu'en Afrique, on avait un cachet à montrer, qu'on n'était pas obligé de suivre les hôtels de marque comme ça, et qu'on pouvait aussi, on a les ressources humaines pour créer la même chose au même standard, aux normes. Et avec mon expérience avec le Ritz-Carlton à Washington pendant 13 ans, ce que j'ai appris était tellement en intérieur, en moi, que j'avais besoin de montrer qu'on était capable de rentrer au pays et de montrer ce qu'on a appris. Oui, j'étais dans un pays où on dit « sky is the limit ». J'en ai bien profité, j'ai appris. Je voulais montrer ce que j'ai appris dans un pays qui venait de commencer. Et c'est ça, et j'ai opté les boutiques hôtels parce que là, j'avais la possibilité de montrer mon cachet. Et j'ai fait un hôtel afro-chic, écolo, et qui est très bien apprécié, mais au standard des hôtels 5 étoiles.
Et avec une cuisine italienne, et une très cuisine internationale. Italienne,
très internationale, parce que il fallait venir découvrir ça.
Ouais. D'accord. Et c'est facile de lever de l'argent?
Très difficile. Je vous dis, j'ai fait à beaucoup de banques et c'était même impensable de financer un programme hôtelier. Ils m'ont toujours dit non, si c'était un appartement, on a une garantie et tout ça. Mais une banque a cru en moi et ils ne l'ont pas regretté aujourd'hui.
Alors, Isabelle Dumont, on aime le développement futur du tour par les Africains. Est-ce que vous pensez que l'accord entre l'Afrique de l'Ouest peut changer la donne du tourisme et puis deuxièmement, pour que les Africains puissent eux-mêmes mener leurs projets?
Alors oui, j'espère que cet accord de libre-échange puisse justement favoriser l'intra-Afrique, c'est-à-dire les échanges africains. Long processus, il vient de commencer et il y a une série de mesures à prendre parce que l'Afrique est un continent qui n'est quand même pas homogène. On vient d'entendre le Maroc, le Sénégal, d'autres, ou le Kenya. Il y a aussi d'autres pays africains qui sont dans des situations plus compliquées, plus difficiles, et certainement, en tout cas, pour le tourisme. Donc oui, cet accord peut y contribuer. Il peut y contribuer en faisant tomber un certain nombre de barrières qui existent entre les pays, des barrières tarifaires pour le commerce, etc. Aussi, comme ça vient d'être très bien expliqué par l'hôtellerie...
Soit Dunyang.
C'est que je pense que c'est le moment ou jamais de partager les compétences sur un tourisme qui soit ancré dans les valeurs culturelles, avec de bons standards ou des standards internationaux, mais aussi avec une spécificité que je pense que de plus en plus de touristes intéressent de retrouver exactement la même chaîne d'hôtel à n'importe quel endroit du monde. Et donc je crois très fort que on doit pouvoir développer des capacités africaines à produire une hôtellerie, si je peux dire, ou un tourisme sous différentes formes, peut-être plus du tourisme d'affaires, comme on vient d'en parler, ou peut-être du tourisme plus domestique, mais qui peut durer toute l'année, y compris du tourisme pour un week-end, pour des petits séjours. Et je crois que ce tourisme demande aussi, évidemment, des infrastructures. Il faut par ne fût-ce que ça, il y a beaucoup de pays africains dans lesquels ne fût-ce que la coupure d'électricité et donc la non-connexion Internet pendant une partie de la journée est un problème. La question d'approvisionnement et d'offrir par exemple une alimentation qui soit une alimentation mixte, c'est-à-dire à la fois celle que les touristes internationaux aiment de trouver, mais aussi de lui faire découvrir des saveurs et des produits locaux, peut-être de faire les productions locaux pour présenter leur travail. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui permettraient aux Africains de développer un tourisme qui est dans leurs mains, ou plus dans leurs mains que le grand tourisme, les grands groupes internationaux, à la fois avec de bons standards, mais aussi avec de bonnes spécificités. Et elles varient évidemment selon qu'on est en Afrique du Nord, en Afrique centrale, dans la Corne de l'Afrique ou ailleurs. À part ça, évidemment, toute la question, et quelqu'un l'a évoqué, la question du terrorisme ou des images que se fait, doivent aussi être progressivement transformées pour pouvoir offrir aussi aux touristes étrangers ou même aux touristes domestiques le sentiment qu'il est en sécurité. Enfin, il y a l'infrastructure routière, parce qu'il n'y a pas que le fait d'arriver en avion, il faut aussi avoir des services de logistique, des autocars et de la manière de déplacer les gens à l'intérieur du pays. Mais je pense vraiment qu'il y a un créneau là, dans cette période un peu particulière où la crise internationale risque de se faire un peu attendre. C'est le moment ou jamais de travailler, je dirais, à l'échelon africain
sur les instruments d'un tourisme à caractère africain qui ne sera pas tout à fait le même, qui devra nécessairement copier le tourisme international, qui doit offrir de bons standards et puis surtout créer de l'emploi. D'emploi pour les jeunes et les femmes, ce sont eux qui ont été les plus touchés dans les pays qui ont payé cher le Covid à travers le tourisme. Et je pense d'ailleurs aux petites villes africaines, que ce soit l'île Maurice, que ce soit le Cap-Vert. C'est, dans ces pays-là, c'est encore un peu pire parce que là, le taux de la part du tourisme dans le PIB est gigantesque. Elle va dans certaines îles, en tout cas des Caraïbes, jusqu'à parfois 70 ou 80%. Vous imaginez que l'arrêt du tourisme, évidemment, là, du jour au lendemain, a créé un vrai séisme économique. Donc c'est un secteur qu'il faut travailler, pas seulement en accueillant les grands groupes, mais en développant son propre produit. Et je pense que ce qu'on nous raconte aujourd'hui est plutôt prometteur et devrait pouvoir s'exporter, si je peux dire, en intra-africain pour démontrer qu'il est possible de réussir un tourisme propre au sens, dans tous les sens du mot, propre écologiquement, mais propre aussi au sens africain du terme, si je peux dire.
L'écologie, la sécurité et bien sûr la spécificité et la beauté de l'Afrique. Eh bien, on va en parler maintenant avec une nouvelle escale dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo, dans le parc des Virunga, où vivent les gorilles des montagnes. Ce parc, le plus ancien du continent africain, constitue le joyau de l'industrie touristique congolaise. Évidemment, le parc a été gravement impacté par le coronavirus. J'ai pu m'entretenir il y a quelques jours avec son conservateur, l'anthropologue belge Emmanuel Demérode. Il nous explique les conséquences pour le parc et pour les habitants de la région.
Nous sommes gestionnaires, on est conservateurs de parc. Notre responsabilité est bien sûr vis-à-vis de la faune. Et on a une espèce en particulier, les gorilles des montagnes, qui est une espèce qui est en danger, qui s'est bien débrouillée ces 30 dernières années. Elle a augmenté en nombre, donc elle est en train de se rétablir, mais qui pourrait être perdue en très peu de temps si une maladie comme Ebola ou le Covid était transmise par l'homme parmi les gorilles. Et donc ça, c'est évidemment une inquiétude que nous avons. On a dû prendre des mesures extrêmes, dont la fermeture du tourisme. Et donc le tourisme a été fermé d'une part parce qu'il y a un danger extrême vis-à-vis de la survie des gorilles des montagnes, mais également parce que le tourisme est un vecteur de transmission vis-à-vis de la population congolaise. Et donc tous les voyages sont limités pendant une période du Covid, mais en particulier le tourisme qui a été fermé au parc des Virunga. Une des conséquences, c'est qu'on a connu une situation financière extrêmement difficile, parce que le tourisme constituait plus de 40% des recettes nécessaires pour le fonctionnement du parc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une crise qui a fait surface après une série de crises. On a connu presque 30 ans de conflits armés, de guerres civiles. S'est ajoutée une autre épidémie, la crise Ebola. Et puis, tout récemment, cette crise liée à l'éruption volcanique du mont Nyiragongo. Donc, c'est un parc et c'est une population qui n'a vraiment pas eu une situation facile.
Vous l'avez précisé, l'existence du parc est sans cesse remise en cause par toutes ces menaces. Est-ce que la pandémie qui sévit aujourd'hui constitue une menace d'une ampleur équivalente ?
Elles sont tous des menaces qui pourraient provoquer la perte de ce parc national. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce parc national, la vie de ce parc est intimement liée à la vie des populations qui vivent autour. Il y a presque 5 millions de personnes qui vivent à moins d'une journée de marche de la bordure du parc. Et ce qui impacte sur eux invariablement des conséquences sur la situation du parc. Donc s'il y a un effondrement de l'économie lié à la pandémie du Covid, ça crée par exemple une plus grande dépendance sur la forêt. Les gens ils perdent leur emploi, ils doivent survivre autrement. Et ça augmente le braconnage, ça augmente la destruction des forêts pour le charbon de bois, par exemple. Mais également, le parc a une responsabilité vis-à-vis de ses populations en fournissant des services divers, dont l'eau et l'électricité. Cette électricité fait tourner les stations de pompage qui fournissent l'eau à la ville de Goma. C'est une ville de 2 millions de personnes Et évidemment, sans eau, l'impact du Covid est amplifié. Quand les services de base n'existent pas, l'impact d'une pandémie devient infiniment pire. Et là, les malheurs se combinent. On a eu l'éruption volcanique qui a coupé les lignes électriques vers la ville, ce qui a fait que les stations de pompage ne fonctionnent pas, ce qui fait que l'eau n'arrive pas à la population. Et le Covid devient un problème, pas seulement le Covid, mais il y a aujourd'hui une recrudescence du choléra. Toutes ces questions sont liées et mènent à énormément de difficultés et pour le parc et pour la population.
Le parc a besoin du tourisme et le tourisme en République démocratique du Congo a besoin du parc.
Oui, tout à fait. Donc l'attrait principal du secteur touristique, le premier produit, si on peut dire, du Congo, c'est le parc des Virunga à travers ces gorilles des montagnes et le volcan actif du Nyiragongo. Et donc ça, c'était une activité qui, en 2017, a connu une croissance extraordinaire et promettait énormément de bénéfices pour la population et pour l'avenir du parc, et a dû être suspendue d'abord à cause de l'épidémie d'Ebola, qui était autour du parc des Virunga, et qui a été suivie presque immédiatement après par l'épidémie du Covid.
Emmanuel Demerod, j'ai une dernière question. La nouvelle menace sanitaire, après celle d'Ebola, celle du Covid, est-ce que vous avez bon espoir de pouvoir traverser cette nouvelle crise et de pouvoir continuer à faire vivre ce parc qui, vous l'avez dit, est l'un des plus fabuleux au monde ?
Oui, on a de l'espoir. Elle s'exprime à travers différents développements. C'est la croissance des gorilles des montagnes qui continue à grandir. Les éléphants, par exemple, ont augmenté considérablement. Plus de 700 éléphants ont été découverts, si je peux dire, dans le secteur centre du parc, au cœur du parc, l'année dernière. Mais ce qui est encore plus important, c'est cette question de l'apport du parc aux populations. Donc, comme je disais, l'énorme risque pour les populations locales, c'est l'absence de l'eau et des services de base, et en particulier dans les grandes villes comme Goma, qui est une ville de 2 millions de personnes. Et c'est le parc qui apporte l'électricité, les rivières du parc et les centrales hydroélectriques qui ont été construites par le parc. Et en fournissant cette eau, on arrive à diminuer l'impact de ces maladies terribles. Ça renforce le lien entre la nature et la santé humaine, qui est un domaine qu'on a un peu oublié ces derniers temps et qui est extrêmement importante.
Et c'est Emmanuel Demerod, le conservateur du parc des Virunga en République démocratique du Congo, qui nous rappelle un peu l'importance de la santé et de ce lien entre la santé et le monde animal. Un témoignage tout à fait éclairant, où on voit que le parc est un élément clé du tourisme et du développement local. Isabelle Durand, c'est vous qui avez attiré mon attention sur les efforts et sur les difficultés que traversaient les Virunga. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage d'Emmanuel Demerod, votre compatriote ?
Oui, alors je connais bien M. Demerod et je suis allée déjà plusieurs fois au parc des Virunga. Je pense que le projet qui y est mené, il l'a très très bien expliqué, est absolument complet parce qu'à la fois il y a tout le volet protection de la nature, de la biodiversité et des espèces rares. Il y a une protection contre le braconnage. Il vit dans un climat d'insécurité parce qu'il y a aussi dans cette région du Kivu énormément de bandes armées et de faiblesse de l'État, de la capacité à maîtriser ces bandes armées. Et donc je pense que ce qu'il vient d'expliquer est très très important parce que finalement le tourisme est une des activités au milieu des activités économiques qu'il développe au profit des populations locales, parce qu'un parc naturel est aussi un parc habité, et dans un pays comme le Congo on ne peut pas uniquement mettre isolé des touristes sous une cloche alors qu'autour d'eux on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de revenus et on vit dans un très grand dénuement. Ça n'est pas tenable, d'autant plus que les bandes armées, elles, raquettent le mieux possible tous ces pauvres habitants. Et donc je crois que son modèle, évidemment, il est particulier parce qu'il a la gestion complète d'un parc qui est un parc de milliers d'hectares qui est un des plus beaux du monde.
Mais néanmoins, son exemple, pour moi, est vraiment très éclairant sur la manière d'intégrer le tourisme au milieu des activités économiques les activités économiques nourrissent le tourisme et vice-versa. Il explique très bien aussi à quel point l'épidémie ou d'autres épidémies à l'avenir pourraient le fragiliser. Donc je crois que cette approche-là, elle est vraiment... Enfin, on peut en tirer des leçons pour en développer des modèles, si pas identiques, en tout cas proches ailleurs.
Alors, Nadia Feta, j'aimerais avoir votre opinion sur, peut-être aussi une réaction sur ce témoignage, mais sur cette interaction entre tourisme et le bien de la collectivité. Est-ce que c'est toujours compatible? Est-ce qu'on ne voit pas parfois des établissements se développer un peu à outrance et qui utilisent l'eau, l'électricité, tout ce qui est nécessaire pour la population locale et ça peut être parfois à leur détriment? Est-ce que...
Je pense effectivement une des grandes leçons de cette pandémie que nous traversons, c'est que les territoires ont des choses à faire valoir en fait dans leur diversité pour le tourisme et qu'il faut préserver ces atouts, qu'ils soient naturels, culturels, mais que pour cela il faut de l'inclusion en fait des populations locales. Je pense que c'est extrêmement important. On a commencé pendant cette crise à mettre un peu plus l'accent sur ça. Comment ? D'abord que chaque territoire ait lui-même un petit budget pour communiquer, raconter son histoire, c'est important. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut pour garantir cette inclusion, c'est pouvoir, on va dire, ancrer les talents locaux dans leur région pour faire du tourisme, entre autres activités économiques ou culturelles dans leur région. Et donc, on pousse l'économie sociale, donc la création de coopératives, de services, même de digital ou autre, des nouvelles aides financières pour les toutes petites entreprises et les PME qu'on n'a pas suffisamment accompagnées en tant que telles, et bien sûr travailler avec d'autres départements ministériels, les eaux et forêts, tout le reste de l'écosystème. Sans oublier évidemment le cadre législatif, parce qu'en fait ce qui est important aussi, c'est que cette activité du tourisme sorte en fait de la précarité, et pour ça elle a besoin d'un cadre formel. Vous l'avez expliqué, les gens ont envie d'expériences nouvelles et différentes, ça veut dire aller chez l'habitant, et pour ça, il faut sécuriser ce parcours. Donc les gouvernements aussi doivent travailler sur ce cadre pour qu'on crée les conditions de succès, en fait, de préservation de l'écosystème avec toutes les parties prenantes. Donc nous avons aidé, on va dire, localement en donnant des aides, en fait, directes aux employeurs et aux employés pour traverser cette crise. Mais nous avons surtout ouvert ces chantiers structurants, parce qu'on ne peut pas décider un écotourisme sans mettre les bases et retenir les leçons, hélas, d'une crise qui a touché de plein de fouet beaucoup de territoires qu'il faut préserver.
Nadia Feta, merci. Je souligne au passage que vous êtes à Agadir pour l'inauguration d'un nouvel hôtel, comme quoi les affaires continuent, le développement continue. Le mot de la fin, Souadou Niang, vous nous avez raconté au début de l'émission que vous avez formé du personnel, que vous avez donc, vous êtes à fond là-dedans, dans le développement du local.
Oui, exactement. Vraiment, surtout la promotion des femmes qui n'avaient pas peut-être confiance en soi dans les années d'avant et qui aujourd'hui sont devant et qui ont prouvé que c'est des managers nés et que si on les met devant, ça va toujours marcher.
Mais écoutez, c'est parfait, hein, vive les femmes, une émission avec trois femmes pour parler du tourisme. Merci beaucoup à toutes les trois, Isabelle Durand de la CNUSED à Genève, Souadou Niang de Dakar, mais qui est en ce moment déplacement en France, et puis Nadia Feta, ministre marocaine du tourisme. Merci à toutes les trois d'avoir répondu présente pour Radio France Internationale. Écho d'ici, écho d'ailleurs, eh bien c'est le clap de fin pour ce numéro spécial tourisme, le clap de fin pour la saison 2020-2021. À la rentrée, à ce micro, vous retrouverez Bruno Faure. Et pour les fans de l'émission, nous vous proposons pendant tout le mois d'août une rediffusion d'une sélection d'émissions signée, attention, Jean-Pierre Boris. Et bien sûr, comme d'habitude, à la console, à la réalisation, Guillaume Munier. Je vous souhaite un bel été à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée sur l'antenne de RFI dans la matinale écho.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
tout à l'heure sur RFI.
Alors, on dit quoi avec Penaï Traoré?
C'est les grandes vacances. Qu'avez-vous prévu de faire cette année? Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir votre pays? Surtout si vous vivez dans la